musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Rover est en concert le jeudi 26 janvier au Fusion à La Roche-sur-Yon. Bonjour Rover.
Bonjour, merci de me recevoir.
Entre le premier album éponyme et Let It Glow, ta manière d'aborder la musique a changé. Comment cela s'est opéré chez toi ?
C'est un processus un peu que l'on ne maîtrise pas totalement. Il y a forcément, au moment d'écrire un deuxième disque, l'influence d'une première tournée qui a été longue et riche en émotions qui transpire au moment d'écrire les titres, en tout cas, et écrire ce disque. L'homme que je suis n'est plus le même non plus. On évolue forcément et c'est tant mieux. Je pense qu'il y a une volonté de ne pas tomber dans la redite non plus. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui sont un peu inconscients et qui font que l'écriture change un petit peu, même si le fil rouge reste le même entre les deux disques, puisque c'est toujours un peu les mêmes ingrédients. C'est moi qui écris les chansons, qui vais les jouer, qui enregistre sur des vieux magnétos à bande, qui utilise un peu les mêmes guitares. Donc il y a cette manière de faire. C'est comme un peintre qui utilise toujours la même technique de sur une toile et de la peinture, mais son regard change, le regard des choses, sa volonté de se mettre en danger. Donc ce sont des ingrédients un peu impalpables qui font que les deux disques sont comme des frères, voilà. Il y a comme deux enfants. C'est le même sang qui coule dedans, mais ils n'ont pas le même caractère.
Entre la sortie du premier album et la sortie du deuxième album, on est un petit peu stressé, savoir si ça fonctionnera mieux, si ça fonctionnera moins bien, ou tu vois ça plutôt à la cool ?
Ben moi, je pense vraiment tout ça à la cool. C'est pas du tout ce qui me hante au moment d'écrire les titres. Je pense pas en termes de ce qui va marcher. Peut-être que je devrais, mais de mon point de vue, je pense à des titres que j'ai envie de jouer, que j'ai envie d'entendre. C'est très égoïste. Ceux que j'aurais envie d'entendre à la radio ou entendre chez moi le soir ou le matin en me réveillant. Je fais réellement la musique qui me manque, en fait. C'est un peu bizarre, mais...
Non, c'est tout à fait logique.
Donc, c'est une démarche, du coup, qui est très très égoïste, qui est une relation très intime avec la musique, avec la manière d'écrire les chansons, et des titres que j'ai envie de jouer en live, que j'ai envie de jouer en concert, et dont je ne me lasserai pas. C'est le risque, hein. Écrire des titres que l'on n'aime pas à 100%, il y a forcément une lassitude qui s'installe. Dès lors qu'on les aime comme des enfants, on ne se lasse jamais de ses enfants. Donc, je fais toujours un rapprochement paternaliste avec la musique, mais il y a une relation très intense comme ça.
Est-ce qu'on peut dire que la première tournée t'a permis de gagner en assurance et d'être conforté dans ce parcours de musicien et d'auteur ?
Oui, c'est assez clair. Il y a, malgré moi, même si on voudrait se préserver de beaucoup de choses, il y a ces bons côtés-là. C'est-à-dire qu'on chasse quelques fantômes, on chasse des choses qui peut-être nous empêchent d'aboutir des chansons. Tous ces petits doutes qui sont des freins à l'écriture font que étant donné que l'on est attendu, que l'on est que les gens venaient au concert, nous faisaient des retours, enfin me faisaient des retours, la plupart du temps très positifs, même la presse, même les professionnels du milieu, il y a forcément une ferveur qui porte et qui donne envie de ne pas décevoir, qui donne envie au contraire de refaire le voyage avec les gens une seconde fois. Donc ça a une influence indéniable. Le live, enfin ce qu'on appelle le live, les concerts, les enchaîner comme ça et jouer dans des lieux aussi différents que des festivals ou des petites salles ou même des promotions en télévision font qu'on apprend. On apprend sur soi. On a un peu une vision, un recul en tout cas sur son travail et c'est très sain parce que sinon on reste dans un la tête dans le guidon et ça met du temps par contre. C'est en fin de tournée, on digère un peu tout ce qui s'est passé, les émotions, les choses qui nous ont moins plu, et on essaye de ne pas refaire certaines erreurs. Donc on grandit.
La vie avec le public, ça transpire dans ce deuxième album, Let It Glow ?
Oui, c'est typiquement quelque chose qui m'a influencé au moment d'écrire les titres. C'est la rencontre avec le public sur un premier disque. On arrive de nulle part, on arrive de l'intimité d'une chambre, d'une chambre d'écriture, et on est mis en lumière. On va à l'encontre du public, on va à l'encontre des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, et tout ça peut paraître violent, mais a une influence. Au moment d'écrire les titres, on a envie que de jouer en live. On pense au concert, on pense à la manière dont les gens écoutent le disque aussi, dont on reçoit beaucoup de courriers, des messages de gens qui me disent que ça les accompagne en voiture le matin, ça leur donne un peu d'énergie ou que ça, la musique peut soigner. Donc c'est peut-être prétentieux dit comme ça, moi je sais qu'elle m'a soigné, certains disques m'ont soigné, parce que le quotidien fait que c'est pas toujours marrant, et puis quand c'est marrant, elle peut accompagner pour que ce soit encore plus marrant. Donc c'est un remède très sain et qui a une forme de responsabilité qui en découle, et qui du coup, oui, au moment d'écrire les titres, on y pense malgré tout, et c'est très agréable, je trouve.
Et quels disques t'ont soigné, toi, personnellement ?
Ils sont très. Je sais que je cite toujours les Beatles parce que beaucoup de musiciens les citent, hein, mais c'est quand même un groupe assez incompréhensible, une forme de magie intemporelle comme ça. C'est une musique qui a su m'accompagner, qui m'accompagne encore, parce qu'il y a un sens de l'harmonie, de l'écriture, de la mélodie qui paraît évident. Et cette évidence-là, ben, chez les Beatles, je les cite eux, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y a la musique classique aussi, qui est une grande richesse, évidemment harmonique. Et puis et les Beach Boys, Bach, Bowie, ils sont nombreux. Hein. Mais pas que de l'époque des années 70, hein. Il y a même des contemporains qui peuvent encore me bouleverser et m'accompagner. Après, c'est une relation très intime. Hein. Je sais que chacun a ses disques.
C'est juste fétiche, oui.
Hein, mais...
La motivation d'enregistrer les titres de Let It Glow en une seule prise, ça vient de cette assurance aussi de la scène ?
Ça vient certainement de l'assurance de la scène. Ça vient aussi du fait de la scène m'a appris à accepter mes défauts. En fait, c'est un truc un peu curieux. On apprend à accepter le fait qu'on ne peut pas faire marche arrière sur scène. Quand une erreur est faite ou une imperfection, elle confère au concert tout son charme, en fin de compte. C'est ça que les gens aiment, c'est cette forme d'imperfection. C'est ce que l'on aime chez les gens aussi, ce qu'on essaye de cacher. Et c'est ça que je trouve. Hein, les disques les plus parfaits, pour moi, sont ceux qui sont bourrés d'imperfection. Donc, assumer ça, assumer le fait que je fasse de la musique, jouer avec des instruments capricieux sur des machines à bandes, pas d'ordinateur et en une seule prise, et que ce soit une réelle photographie, me plaisait, ça m'excitait d'avoir c'est une forme de mise à nu comme ça, musicale qui est grisante, parce que quand on va enregistrer, on sait que c'est la prise, quand on va pas retoucher mille fois ou essayer de leurrer les gens en perfectionnant chaque petit détail. Ça appartient, c'est irréproduisible. Et rien que de savoir ça, on peut pas reproduire ce disque puisqu'il appartient à un moment précis. Le rend unique et précieux, du coup.
Et dans 20 ans, tu diras, j'ai bien fait de faire ça comme ça, ou tu diras, j'aurais mieux fait d'enregistrer en numérique, comme ça j'aurais pu retoucher quelques trucs.
Je me dirais, j'aurais dû plus dormir, à mon avis, dans 20 ans. C'est la première chose que je me dirais. Mais... Non, j'aurais dû le faire comme ça, évidemment, parce que le numérique évolue beaucoup et c'est un outil extraordinaire, je ne le critique pas du tout. Mais l'analogique a tendance un peu à disparaître. C'est devenu rare de trouver des studios très bien entretenus qui sont pointilleux là-dessus et qui font les disques comme on les a fait pendant plus de 60 ans. Et c'est une chance de pouvoir écouter, de faire des disques comme ça, comme ceux que j'aime tant et qui m'accompagnent encore. Et je pense que dans 20 ans, je ferai les disques, à mon avis, de la même manière, si j'ai récupéré un peu de sommeil.
Les petits défauts se retrouvent dans Let It Glow. Les petits défauts de l'enregistrement.
Bah oui, complètement. Ils sont quand on écoute
incorporés dans les
titres. On entend la pièce. On entend les oiseaux qui hurlent derrière les fenêtres. On entend la pluie qui tombe sur le toit. Il y a de la vie partout. Les chaises qui craquent. Les défauts d'interprétation. Ça pourrait peut-être être mieux chanté. C'est une question de point de vue, mais en tout cas cette prise là est honnête. La prise de chant d'un des titres, par exemple, au nom de n'importe lequel, mais est honnête du début à la fin. Et ça me plaisait. Elle a une sinusoïde émotionnelle avec ses défauts et ses qualités. Et elle vit, en fait, tout le long. Et ça, c'est très dur à capter. Dès lors qu'on y retouche après, qu'on chante chaque paragraphe un par un avec un ordinateur, on tue l'âme, je trouve, des chansons. On tue la vie.
On tue le petit plus, oui.
Ouais. On tue l'instant, en fait. Donc ça, c'est toujours délicat de laisser ce choix-là.
Et cet album a été enregistré en Bretagne ?
En Bretagne, oui, au cœur de la Bretagne, en plein hiver. Ça a été dans un studio qui s'appelle Kerouac, un studio assez extraordinaire. Mondialement, il est assez rare d'avoir des studios de cette qualité. C'est un ancien internat qui a été enfant qui a au moins 200 ans, qui a été converti en studio.
Un endroit assez magique aussi pour cet album et pour ta musique.
Et puis, truffé de fantômes, donc, au sens propre comme au sens figuré, il y a de la vie, il y a une honnêteté dans les pierres qui transpire au moment d'enregistrer. On n'est pas dans un lieu anodin ou dans un lieu aseptisé, au contraire. Donc, on joue avec les éléments, on joue avec le froid, ça se sent dans la voix parfois, on avait les mains qui avaient froid sur les guitares. C'est tout ça qui fait que c'est un disque qui est une réelle photographie argentique.
Une réelle photographie de l'instant T.
C'est ça.
Pour toi, la musique, c'est vraiment instinctif.
C'est vraiment le travail que j'essaye de faire, consciemment ou inconsciemment, mais l'instinct ne trahit rarement, en fin de compte. On est obligé d'en avoir sur scène, puisqu'on utilise des instruments, qu'on voyage, on les installe, on joue devant les gens. J'ai envie de faire pareil en studio, de sentir que le corps doit s'adapter aux éléments autour de soi et que l'instinct nous dit que c'est le bon choix de garder cette prise, qu'on peut pas la refaire 10 fois, que de se dire c'est la bonne. Donc utiliser l'instinct en musique, c'est laisser la musique conduire de temps en temps. C'est elle qui pilote, c'est elle qui choisit à notre place. Donc ça, c'est rentrer dans une relation très intime avec la musique et ça n'a pas de prix puisqu'on voit les entrailles de la musique. Donc ça m'a beaucoup plu.
Tu penses sortir un live prochainement ou c'est pas dans les cartons?
C'est
une nouvelle photographie, ça aussi.
Complètement, complètement. Le seul défaut que je trouve au live, c'est la manière d'enregistrer. Ce sera certainement au travers un ordinateur et ça me laisserait la possibilité, malheureusement, de le réécouter, de rentrer dans le détail, de se dire « Ah, ça, c'est pas bien joué ». Si on l'enregistrait sur bande, à la limite, direct, en analogique, sans la voir, la musique, et en disant « c'est comme ça » et que les gens repartaient tout de suite après, sans même que j'ai l'occasion de la réécouter avec, sous le bras, ça me plairait. J'aimerais enregistrer un live que les gens puissent emmener avec eux en rentrant chez eux.
Rover, on te retrouve en concert le jeudi 26 janvier au Fusion à La Roche-sur-Yon. Pour les salles de concert, tu préfères les grandes salles ou les grands festivals ?
Ah, les deux sont bien. Les deux sont bien et sont tout aussi stressantes et excitantes.
Dans les petites salles, il y a eu un moment d'intimité, de proximité avec le public.
Oui, ça c'est imbattable. De sentir le souffle des gens, leur regard et la chaleur, c'est quand même assez imbattable. Il y a un truc très impersonnel dans les gros festivals qui a tendance à figer. Je trouve que dans les petites salles, tout peut arriver et ça c'est beau. Ça me plaît.
Merci Rover.
Un plaisir, à bientôt.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, direction l'espace numérique sur l'île Dieu. On en parle plus en détail avec la responsable Rosane Bernard. À demain, au revoir.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale. Retrouvez toutes les émissions sur neptunefm.com.